Amen, notre Père, notre Dieu, notre Roi, tu es, oui, ce bien le plus précieux. Tu es ce Dieu de l'Alliance, tu es ce Dieu qui a sans cesse cherché l'homme depuis Adam et cette question, où es-tu? Et cet homme qui s'est caché, cet homme qui a fui ta présence, de nous de plus fuir ta présence, ô notre Dieu, mais de venir à toi, de ne plus nous cacher, mais oui, de tout déposer pour venir et courir vers toi, pour être accueilli de toi, pour recevoir ta grâce et ta paix, pour recevoir ton Esprit Saint, pour recevoir la délivrance, la libération, la consolation. Tu es notre Père et tu veux encore que nous soyons tes enfants ce jour. Sois glorifié, sois loué et qu'on puisse encore s'approcher de toi en ces instants. De chercher dans nos cœurs, tout au fond de nos vies, réveille ta puissance, réveille cet Abba Père, cet Esprit Saint qui s'écrie vers toi, notre Dieu, que tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse lire un verset dans le livre de Ruth, au chapitre 1. Et au verset 15 et suivant, c'est un verset bien connu de beaucoup parmi nous, mais que nous allons relire aujourd'hui. Ruth chapitre 1, verset 15 et suivant. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Amen. Nous sommes donc entretenus cette semaine de cette fête de Shavuot, cette fête de la Pentecôte, où le peuple d'Israël lit ce livre de Ruth que nous avons lu aussi ici. Et aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte pour la chrétienté, j'avais à cœur de pouvoir reprendre ces versets et de nous parler un petit peu de ce Dieu de l'Alliance et de cette femme d'Alliance qu'a été Ruth. On le voit dans ces quelques versets, cette détermination, cette conversion, finalement ce détour de elle qui était tournée vers Moab, tournée vers son peuple, a pu elle-même faire ce 180 degrés que nous sommes aussi appelés à faire en tant que chrétiens lorsque nous nous convertissons, de faire ce 180 degrés de nos idoles, de nos douleurs, nos peines, nos souffrances, notre misère. Dieu nous appelle par sa grâce à entendre sa voix qui nous appelle à quelque part de l'autre côté de nous-mêmes pour que nous puissions nous tourner vers lui, que nous puissions dire, eh ben, ce peuple qui était mon peuple avant, ce pays qui était mon pays avant, ne l'est plus. Voici maintenant mon pays, voici maintenant mon peuple, comme a pu le dire Ruth à Naomi. On voit qu'effectivement, Ruth a ce désir, ce zèle dans son cœur, comme je l'ai prié, de dire, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Et qu'effectivement, en tant que chrétien, on doit être inspiré, édifié, et c'est pourquoi justement on lit ces versets aujourd'hui, par cet exemple de Ruth, par cette femme de l'Alliance, qui ne voulait pas quitter, si on veut, Naomi, mais Naomi est l'image de Dieu, est l'image du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, lequel justement allait accueillir Ruth par Boaz. Ô combien cette étrangère a pu devenir finalement par avance, rentrer dans les paroles que Paul dit aux Éphésiens, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, hein, sans Christ, sans espérance, mais Ruth y est rentrée comme un précurseur, hein, comme quelqu'un qui nous a devancés dans ses promesses, devancés dans cette alliance qui s'est ouverte aux nations. Et comme on le voit dans ce cœur de Ruth, il y a effectivement cette détermination à ne plus être éloigné de Naomi, à ne plus être éloigné de Dieu et de ses promesses. Et nous, de même, on doit effectivement repousser et détruire tout ce qui dans nos vies peut nous faire demeurer loin du Seigneur, nous faire demeurer loin de cette Naomi qui représente pour nous les promesses de Dieu, la présence de Dieu, la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, par excellence, bien sûr que notre Naomi, c'est Jésus. Notre Naomi, c'est le Saint-Esprit. Notre Naomi, c'est le Père. C'est ce Dieu trois fois saint. Mais ô combien encore, peut-être dans nos vies, à l'exemple de Ruth, en cette fête de la Pentecôte, nous sommes instamment pressés par l'amour de Dieu, comme le dit Paul, à nous détourner de Moab pour revenir à l'Éternel, notre Dieu. Et ô combien, effectivement, je crois que dans ces temps qui sont les derniers, Dieu cherche des hommes et des femmes d'alliance. Ô combien aujourd'hui, on le voit à l'image du mariage, qui est complètement une valeur bafouée aujourd'hui, qui n'est plus du tout mis en pratique. Le mariage, dans la parole de Dieu, est quelque chose de sacré, est quelque chose de divin, est la volonté de Dieu, est quelque chose qui représente et qui est l'image de Dieu sur la terre. Un homme et une femme mariés sont appelés à être l'image de Dieu pour leurs enfants. Et ô combien aujourd'hui on voit que le diable et le péché grandissant s'est attelé à détruire cette image-là, à justement mettre le chaos dans les symboles, dans les exemples et les modèles bibliques que Dieu nous appelle à porter. Il y a aujourd'hui, bien sûr, aussi beaucoup d'exemples bibliques qui sont en train de se détruire, mais le mariage en fait partie. Et le mariage, il est au centre de quoi ? De l'alliance. Dieu parle tout au long de sa révélation, de ses écritures, d'images de noces, d'images d'alliance, d'images d'union. Et ô combien il le voit, nous le lirons dans un second temps dans le prophète Malachie, ô combien il hait la répudiation. Il haït cette séparation et cette division. Mais qu'est-ce qu'a fait le péché ? La séparation et la division. Comme je l'ai prié, le premier divorce de l'histoire, la première séparation et division de l'histoire, c'est lorsque Ève a pris ce fruit qu'elle en a fait manger à son mari. Et que lorsque le Seigneur est revenu le soir dans le jardin, ils ont fui et ils se sont cachés. Voilà le premier divorce de l'histoire. Voilà la première répudiation de l'histoire. L'homme, avec le diable, a répudié Dieu de sa vie. Il a mis dehors de sa vie le Seigneur. Le Seigneur, pourtant, le Seigneur de la vie, le Seigneur du bonheur, le Seigneur de la joie, le Seigneur de la délivrance, le Seigneur qui est tout pour nous. Et ô combien aujourd'hui, nous faisons face à un drame encore dans nos vies. Et un chemin de sanctification que nous devons prendre et dans lequel nous devons persévérer chaque jour, de voir que la source d'eau vive, c'est comme si nous sommes toujours sans cesse tentés de la fuir. Nous sommes comme sans cesse tentés de vivre ce qu'ont vécu nos pères, Adam et Ève, ce premier couple, de fuir la présence de Dieu, de fuir celui qui est tout pour nous, celui qui a toute solution, celui qui a toute réponse, celui qui a toute provision pour nos vies. Il y a comme ce péché, cette nature charnelle en nous qui nous pousse à fuir le Seigneur, qui nous pousse à fuir celui qui devrait être tout pour nous. Et c'est pourquoi justement, cette division, cette séparation, ce divorce est la plus grande tristesse qui ait jamais eu dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi justement, il a été jusqu'à se donner lui-même. Il a été jusqu'à donner le Fils bien-aimé, le Fils de sa grâce, le Fils de sa gloire. Il l'a donné pour chacun de nous. Alors ô combien, effectivement, comme nous allons le faire, à la suite de cette prédication, nous allons faire la Sainte Cène. Jésus dit, voici le sang de l'Alliance. Voici finalement le sang qui répare ce premier divorce, qui répare ce péché qui a brisé notre communion avec Dieu, qui a séparé l'humanité entière d'avec Dieu, d'avec son Père, comme on l'a chanté, « Abba mon Père, mon Roi, mon Dieu, oh je t'aime !» Mais ce jour-là, il y a eu un drame dans le ciel, un drame justement dans le cosmos, dans l'univers entier, que ce « je t'aime » il a été brisé, il s'est comme cassé en deux. Et qu'effectivement, Ruth rentre pour nous dans cette lignée de précurseurs qui ont voulu, plus que tout, faire alliance avec ce Dieu, qui ont plus que tout voulu réparer cette brisure de l'Éden, réparer cette brisure du monde. Mais quand bien même Ruth aurait pu vouloir être la plus grande femme déterminée de l'histoire, il fallait Christ. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut se sauver, mais nous avons besoin du sang de l'Alliance pour que, effectivement, Ruth et nous-mêmes, nous puissions rentrer dans la perfection de Dieu, la perfection céleste, que nous puissions enfin vraiment être réconciliés complètement et totalement avec Dieu. Mais Dieu, depuis cette brisure, depuis ce premier divorce, il n'a voulu cesser de revenir à l'homme. Est-ce que l'homme puisse refaire alliance avec Dieu? C'est pourquoi, effectivement, il a fait alliance avec Abraham. On le voit, ces animaux ont été partagés. Dieu est passé à travers ces animaux comme pour dire, parce que c'était l'acte notarié de l'époque, « Je fais alliance avec toi, Abraham, et je te donnerai ce pays, je le donnerai à ta postérité. » Et on le voit, on le lit dans le livre de l'Exode. Dieu s'est souvenu de son alliance lorsque le peuple d'Israël était en esclavage. Il était ce peuple choisi auquel Dieu avait fait une promesse en Abraham, Isaac et Jacob. Et justement, Dieu s'est souvenu de son alliance pour les faire sortir, pour leur faire passer la mer Rouge. Et ensuite, Dieu est descendu au mont Sinaï pour faire alliance, pour donner ses commandements, pour donner ses ordres, pour donner ses ordonnances et ses préceptes afin qu'effectivement, cette brisure en Adam et Ève soit réparée, pour qu'un peuple lui appartienne. Mais cette brisure, Dieu savait qu'elle ne serait que réparée en Christ, que réparée dans le don d'un agneau sans tache, de quelqu'un qui ne serait pas marqué par le péché et qui pourrait effectivement marcher parfaitement dans les commandements de Dieu, accomplir cette Torah d'amour, cette loi d'amour, cette loi de l'Alliance pour nous, afin que par son sang et par le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte et dont on fait aussi mémoire aujourd'hui, nous puissions être au bénéfice de cette nouvelle alliance, de cette alliance renouvelée qui fait qu'effectivement nous pouvons, parce que cette Torah a été gravée dans nos cœurs, marcher dans ses voies, marcher à la suite de Ruth, marcher à la suite de tous ces précurseurs dans la foi. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, tous ces gens qui ont marché par la foi ont finalement été des gens d'alliance, ont été finalement des gens qui nous ont devancés dans ce désir de réparer cette brisure, ce premier divorce, cette première division et séparation d'avec Dieu. Et ô combien, effectivement, Ruth apparaît pour nous comme quelqu'un qui nous édifie, qui touche nos cœurs, qui fait bouillonner, on pourrait dire, le Saint-Esprit dans nos cœurs, avec ses paroles prophétiques, de dire que ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu, où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. On voit toute la détermination de cette femme et ô combien, eh ben dans ces temps, pour nous, pour l'épouse, effectivement, que nous sommes appelés à être pour Jésus-Christ, Dieu cherche des gens d'alliance. Et c'est tout ce que l'Évangile nous parle, que dans les derniers temps, l'alliance sera bafouée, l'amour du plus grand nombre se refroidira, la foi ne sera peut-être plus trouvée sur la terre. La foi, c'est l'alliance. L'amour, c'est l'alliance. Et qu'effectivement, eh ben, cette alliance, ce désir de servir Dieu, de marcher à sa suite, qu'il soit vraiment notre Dieu, qu'il soit vraiment la raison de notre vie, qu'il prédomine sur tous nos choix, sur toutes nos décisions, sur tous nos raisonnements, eh ben, il y a un enjeu à ce que cela soit le cas dans chacune de nos vies. C'est le désir du cœur de Dieu. C'est finalement la supplication qu'il y avait dans le cœur de Jésus de dire « Est-ce que je trouverai ce peuple d'alliance lorsque je reviendrai sur la terre ?» Et j'aimerais prendre avec vous dans le livre de Malachie, comme j'en ai fait mention un peu auparavant, Malachie, dernier prophète, avant Jean-Baptiste, précurseur du Fils de Dieu, dit dans le chapitre 2, Malachie chapitre 2, verset 10, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Et ensuite au verset 14, et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. C'est notre père Abraham, ce seul qui l'a fait. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Oh, combien ces paroles sont là pour nous encourager dans ce livre de Malachie, ô combien qui est un livre d'actualité, comme on s'est entretenu ici même, du livre de Joël, du livre de Zacharie, ô combien le livre de Malachie est aussi un livre pour notre temps. Et je crois qu'il l'est un livre pour notre temps, parce qu'on n'a pas le temps de lire tout le livre du prophète Malachie, mais un petit peu avant, dans le chapitre 2, Dieu parle justement des sacrificateurs. Nous sommes ce peuple de sacrificateurs. Et il dit aux sacrificateurs, justement, il les appelle à revenir à l'alliance. Il leur montre comment ils ont dévié, comment justement ils ne sont plus dans cette alliance d'amour, dans cette alliance de service. Comme il le dit aussi au chapitre 1, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis Dieu, où est la crainte qui m'est due? Et ô combien justement ce livre de Malachie est un livre pour notre temps, parce que nous sommes marqués par le fait, comme je l'ai dit, de fuir ce Dieu de l'Alliance et d'être finalement aujourd'hui, comme on le voit dans la vie des gens, comme on le voit dans les valeurs de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, que la notion d'engagement, la notion d'alliance n'a plus rien de sacré, n'a plus rien, n'est plus une valeur. L'engagement aujourd'hui n'est plus une valeur. Aujourd'hui, si vous faites ça, vous faites quelque chose aujourd'hui, puis que vous changez demain, vous ne serez pas tant jugé, vous ne serez pas tant, repris. Alors qu'avant, je pense que la valeur de la société était de lorsque l'on commence quelque chose, on va au bout. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, avant, on pouvait commencer même à travailler à l'âge de 10 ans et qu'on travaillait jusqu'à l'âge de 60 ou 70. Il y avait cette notion de dire, je dois travailler et je le fais parce que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, moi-même, lorsque je n'étais pas converti, ce qui me faisait peur, c'était justement de commencer à travailler trop tôt parce que je me disais, jusqu'à 60 ou 65 ans, je vais devoir faire le même travail, vous voyez? Et cette notion d'engagement, cette notion de fidélité, elle me faisait peur. J'avais besoin de pas trop me décider pour pouvoir justement me laisser des portes de sortie et pouvoir changer quand je veux changer, pouvoir m'aérer les idées quand j'ai besoin de m'aérer les idées. Et aujourd'hui, nous sommes justement marqués par cela. C'est pourquoi justement la fidélité, l'alliance, manque à l'appel de l'Église de Jésus-Christ ou de nos cœurs, de nos vies et de la société du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est pourquoi je crois que ces versets de Malachie sont des versets prophétiques, bien sûr, par évidence, parce que c'est la parole de Dieu, mais ils le sont aussi, je crois, dans ce sens-là, pour notre génération, pour nous qui sommes le peuple de Dieu, qui sommes appelés à être ses enfants de Dieu, ses enfants fidèles, comme il termine par le dire. Prenez donc garde en votre esprit, ne soyez pas infidèles. Et il faut qu'on voit que l'infidélité dont nous sommes marqués à cause d'Adam, à cause d'Ève, qui ont été les premiers infidèles de l'humanité par justement la tentation du diable, par la tentation du Satan, de l'adversaire. L'adversaire et le diable, c'est quoi? Un des mots qui le définit, c'est quoi? Le diviseur. Celui qui sème la division, celui qui sème le divorce, celui qui sème la répudiation, celui qui sème l'infidélité, c'est le diable, c'est la chair. Et il faut qu'on voit que justement nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence, à être renouvelés comme l'a été Ruth, elle dont le Saint-Esprit l'a saisie pour dire « Naomi, arrête de vouloir que je m'éloigne de toi ». Et c'est ce qu'on doit dire à notre chair, ce qu'on doit dire à l'ennemi de nos âmes, à celui qui veut encore nous persécuter ou à tout ce qui peut se passer à l'extérieur de nous, de dire « Arrière de moi, Satan, loin de moi toutes ces choses, vous qui m'éloignez de la volonté et des pas de mon père, des pas de Naomi qui se dirigeait vers le pays promis et dans lesquels nous sommes appelés à rentrer, si nous voulons comme Ruth, rentrer dans cette généalogie messianique, rentrer dans les promesses de Dieu si glorieuses et si grandes et si extraordinaires. Ô combien Ruth n'aurait jamais imaginé une seule seconde être mentionnée dans le début de l'évangile de Matthieu, dans la généalogie de Matthieu. L'évangile de Christ, la gloire de Dieu, le Fils de Dieu, cette Moabite peut faire partie de cette généalogie aujourd'hui parce que justement elle a été une femme d'alliance, elle a été une femme fidèle, elle a été une femme justement qui a haï la répudiation, qui a haï le divorce et qui a pu aller jusqu'au bout avec son Dieu. Et je crois que dans ces temps de la fin, que nous puissions être avertis, que nous puissions nous méfier, que nous puissions être édifiés justement par ces paroles, voyant le péché, voyant une facette de l'adversaire et du diable qui veut effectivement nous éloigner de ce Dieu de l'Alliance, qui veut faire de nous des gens qui sont finalement ballottés, comme le dit Jacques, que celui qui doute ne recevra jamais rien du Seigneur, parce qu'il est comme justement les flots de la mer, comme justement une nuée de vapeur. Il n'a pas de consistance, alors que l'homme ou la femme d'Alliance a de la consistance. Ces hommes et ces femmes de foi d'Hébreux 11 ont eu de la consistance devant Dieu. Ils ont eu du poids. Et effectivement, comme le dit aussi la parole, Dieu nous sonde, Dieu nous éprouve afin qu'on ne soit pas trouvé léger justement. Qu'on ne soit pas trouvé léger comme les nuages, léger comme encore étant des gens qui sont ballottés, mais que nous puissions être des gens lourds de l'alliance de Dieu, lourds de l'amour tout simplement du Seigneur. C'est notre Père qui nous aime. C'est notre Père qui, comme il le dit dans le prophète Jérémie, il pleurera en secret, il fondra en larmes. Depuis ce temps d'Adam et Ève, ils font en larmes le Seigneur. Ils pleurent justement en secret parce que justement cette alliance a été brisée. Mais en même temps, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Heureusement et gloire à Dieu, c'est sa miséricorde qui nous a sauvés. C'est pour l'amour de son nom qu'il a été au bout de l'alliance. Comme nous le dit aussi l'Évangile, Jésus a mis le comble à son amour en lavant les pieds de ses disciples. Dieu a tout fait. Il a été jusqu'au bout de son amour, jusqu'au bout de cette alliance. Et de même, il nous renvoie la question à nous. Est-ce qu'on est prêt aussi à mettre le comble à notre amour, le comble à cette alliance que Dieu a faite de dire « Seigneur, je veux passer avec toi à l'image de Dieu et Abraham entre ces animaux. Je veux m'engager à la vie et à la mort. » C'est l'engagement qu'a pris Ruth de dire « Là où tu iras, j'irai, mais là où tu mourras, je mourrai. Que ce soit pour la vie ou pour la mort, j'irai. » Clin d'œil ou hasard qui n'en est pas un, quelle est la promesse qu'on s'engage à faire lorsqu'on se marie, pour le meilleur et pour le pire, hein ? Que ça aille bien ou que ça aille mal, à la vie, à la mort, je m'engage. Et voyons effectivement que le mariage aujourd'hui, une valeur complètement détruite et bafouée, c'est à quelque part aussi Dieu qui est détruit et bafoué par le diable et par le péché. Mais le diable, il fait toujours la même chose. Il veut détruire cette alliance. Il veut détruire cette communion entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi il veut détruire le peuple de l'alliance qu'est le peuple d'Israël. Et il veut détruire l'image par excellence de l'alliance qu'est le mariage entre un homme et une femme, la fidélité que nous sommes appelés à incarner, que nous sommes appelés à transmettre aux enfants. Comment voulons-nous après que les enfants sachent marcher dans l'obéissance, sachent marcher dans la fidélité, sachent marcher dans l'alliance ? Alors que nous puissions en tant qu'Église, en tant qu'hommes et femmes, chrétiens et chrétiennes, incarner ces choses, les chérir et y marcher de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de pouvoir être des gens qui sont être trouvés fidèles. Comme le dit Jésus dans toutes ces paraboles de l'Évangile, ces paraboles qui parlent du retour du Seigneur, ô combien il en emploie beaucoup, et souvent il y a cette image du serviteur fidèle ou de ses serviteurs infidèles. Et nous sommes malheureusement au milieu d'une génération d'infidèles, de gens qui ne peuvent plus s'engager, qui ne veulent plus, comment on pourrait dire, mettre les chaînes, vous voyez, et dire voilà, je décide d'aller au bout. Et qu'on puisse justement ne plus être renouvelé selon ce siècle présent, comme le dit Paul, mais selon la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Et l'alliance est parfaite. Des gens d'alliance sont des gens parfaits. Des gens résolus sont des gens parfaits. Jacques parle aussi de gens irrésolus, inconstants dans toute leur voie. C'est le signe de l'infidélité. C'est le contraire de l'alliance. C'est le contraire de la foi. C'est le contraire de ceux qui considèrent tout comme de la boue et qui courent dans cette carrière comme a pu courir Paul. que nous soyons des gens qui vont jusqu'au bout pour notre Dieu, pour l'amour de son nom et pour l'amour et la grâce qu'il nous donne et qu'il nous fait ressentir. Parce qu'il n'y a pas de plus grand bonheur que d'habiter dans ses parvis. Ça veut dire d'être un. Et c'est la prière que Jésus a faite juste avant de mourir pour nous, de dire « Père, je te prie qu'ils soient un comme moi et toi, nous sommes un. Eux en nous et moi en toi. Nous sommes appelés à faire qu'un avec Dieu, qu'un avec ce Père, qu'un avec ce Dieu qui nous aime. Amen. »